Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, je vous propose sur Canal Académie un entretien exceptionnel avec Jean-Pierre Guénaud, normalien, énarque, qui a dirigé les éditions de Radio France. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Alors vous allez faire paraître aux éditions Télémac Lili Marlène, la véritable histoire de la plus belle chanson d'amour de tous les temps. C'est le titre de votre livre. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de cette fameuse chanson.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Lel Andersen, qui est la toute première interprète de Lili Marlène, bien avant que Marlène Dietrich, dans L'Ange Bleu, ne capte la notoriété de cette chanson. Lel Andersen, chanteuse, comédienne allemande, qui eut une liaison avec le compositeur Rolf Liebermann, directeur de l'Opéra de Paris, eh bien, Lel Andersen enregistra en 1939 « Lied eines jungen Wachtpostens », chanson d'une jeune sentinelle. C'est alors un échec commercial complet, jusqu'à un certain jour dans l'histoire. On est le 18 août 1941, c'est là que les soldats au front, Jean-Pierre Guénaud, découvrent Lili Marlène, que cela devient un tube planétaire, c'est ça ?
Un tube planétaire alors que les choses ont très mal commencé, puisque en 1939, le disque de Lel Andersen a été enregistré, a été un véritable échec. Il a dû s'en vendre 700 exemplaires, et ce disque a été mis au rebut. Et en ce jour que vous venez de décrire, un certain Hans Karl Reitgen, qui dirige Radio Belgrade, la radio des troupes allemandes basée à Belgrade, n'a pas grand-chose à faire. Il est l'officier de la Wehrmacht, le lieutenant qui dirige cette radio. Il s'ennuie fortement et donc il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Il programme pour se désennuyer. Et ce jour-là, il ne peut pas avoir accès au stock de disques de la radio pour illustrer ses programmes musicaux, dans la mesure où les bombardiers anglais sont passés par là et ont atteint les entrepôts où sont situés tous les disques de Radio Belgrade. Alors, il travaille devant une table, et sur cette table, sous cette table, il y a une caisse, et dans la caisse, des disques au rebut. Il en prend trois au hasard, et parmi les trois...
Au hasard, c'est merveilleux.
Au hasard, il y a Lili Marlène. Il faut se souvenir du fait que Radio Belgrade concerne tous les combattants allemands, qu'ils soient sur le front russe, qu'ils soient en Europe centrale, qu'ils résident en France ou bien en Afrique du Nord. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et il se trouve que quelques semaines après sa première diffusion, cette chanson va être écoutée par Rommel, qui est le général, qui n'est pas encore maréchal, qui dirige les opérations du côté des Allemands en Afrique du Nord.
Le renard du désert.
Le renard du désert va devenir un véritable fanatique de cette chanson, va la faire programmer, reprogrammer, et puis très très vite, l'ensemble des radios allemandes vont programmer cette chanson jusqu'à 35 fois par jour. Ça devient une sorte de frénésie. Et
un hymne national à ce degré.
Une sorte d'hymne, et Radio Belgrade va en faire l'indicatif d'une émission qui, tous les soirs, à 21h45, apporte aux soldats allemands des dédicaces de leurs petites amies. Donc c'est vous dire si cette émission est très très écoutée. C'est la frénésie en l'espace de 6 mois. La chanson est traduite dans 48 langues. Un petit peu partout, les Français d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, vont être parmi les premiers à la préempter. Mais à ce stade de l'histoire de Lili Marlène, il nous faut opérer un petit retour en arrière.
Alors évidemment, Jean-Pierre Guénaud, on va revisiter l'histoire de Lili Marlène, la véritable histoire de la plus belle chanson d'amour de tous les temps. C'est un ouvrage que vous êtes sur le point de publier. C'est une histoire que l'on connaît mal parce que si Lili Marlène, évidemment, est très connue, si le nom est très connu, l'histoire, en revanche, ne l'est que fort peu. On est bien obligé de le reconnaître. Je vous resitue, Jean-Pierre Guénaud, vous êtes historien et vous êtes un peu un passeur de mémoire. Le « un peu » est excessif dans ma bouche, c'est que vous avez beaucoup travaillé à la question de pouvoir faire passer des textes bruts issus de la Première Guerre mondiale, en particulier des paroles de Poilu. Vous êtes le créateur des paroles de Poilu, de tous ces textes qu'on a pu exhumer exaucer des tranchées pour ainsi les retrouver, en découvrir toute la saveur brute et qu'on ait ainsi une histoire quasiment en temps réel qui défilait. Alors, c'est important parce que ça va nous ramener aux sources de la Première Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale, pour les sources de Lili Marlène, en fait, Jean-Pierre Guénon.
Oui, et on va découvrir en fait que cette chanson, Lili Marlène, est porteuse de l'histoire du monde, et en particulier de l'histoire de l'Europe, grosso modo entre 1915 et les commémorations du 60e anniversaire du débarquement.
Ce qui est inouï comme amplitude.
Ce qui est inouï comme amplitude en 2004.
Alors, d'abord peut-être une idée quand même, c'est une histoire, vous dites la plus belle chanson d'amour de tous les temps, c'est d'abord peut-être le caractère universel de cette chanson, parce que ce n'est pas anecdotique. Ce qui en a fait la force, ce qui en a fait l'efficacité, ce qui en a fait le succès, c'est qu'elle a ce caractère humain universel.
Oui, et ce caractère humain universel prend précisément ses racines dans la Première Guerre mondiale. J'étais très intrigué à chaque fois que j'écoutais cette chanson, quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération, vous avez beaucoup de mal à entendre cette mélodie sans avoir les tripes qui se tordent, il se passe quelque chose, il y a toujours une émotion très forte, une incroyable nostalgie qui émane de cette chanson. Et alors, je ne comprenais pas l'hymne de la Seconde Guerre mondiale, adopté par les belligérants des deux camps, par les civils dans les deux camps, dans le monde entier, et pourtant, avec la pratique que j'avais des lettres et des textes de la Première Guerre mondiale, je sentais derrière ce texte d'autres racines. Et c'est ce qui nous fait faire un petit retour en arrière, et c'est ce qui va nous amener à Hambourg, le 22 septembre 1893. C'est la naissance d'un garçon qui s'appelle Hans Leip, qui naît dans une famille de 6 enfants de conditions très modestes, parce que son père Friedrich vit de petits métiers aussi précaires que temporaires. Il est tour à tour chauffeur, garçon de bain, et sa mère, la mère de Hans Leip, est fille de boulanger. Alors très tôt, le petit Hans va montrer des dons évidents pour l'écriture, la poésie, la peinture, le chant, tout en restant, il faut le dire, un élève assez médiocre. Sa mère l'imagine pasteur, mais lui est beaucoup moins raisonnable, il ne rêve que d'aventures, de voyages, de pays exotiques, de découvertes maritimes. Et ce cancre poète et imaginatif va dans un premier temps devenir instituteur par raison, mais se sentir très vite tenté par d'autres horizons, tant il est vrai qu'il voudrait devenir artiste et connaître la vie de bohème, et pas du tout celle d'un petit instituteur rangé. Dès l'âge de 19 ans, eh bien, il diversifie ses modes d'expression. Aux poèmes viennent s'ajouter des mises en scène, des partitions musicales, des dessins. Oui, mais la Grande Guerre arrive. Et le 16 novembre 1914, sa grande taille, il mesure près de 2 mètres, ce qui n'est pas si fréquent 1,89. À l'époque. Sa grande taille lui vaut d'être enrôlé à Berlin, donc il quitte Hambourg. Il est enrôlé à Berlin dans la garde impériale, où il devient élève officier. Et là, ne voulant pas vivre dans la caserne, qui est un peu surpeuplée...
La fameuse caserne, puisque évidemment le mot de caserne n'est pas anodin, c'est le premier mot de la chanson. Hein.
Absolument, c'est ce qu'on va trouver dans la chanson de la jeune sentinelle. Là, Hans Leip est colocataire, en quelque sorte, on n'a rien inventé aujourd'hui, avec 2 ou 3 autres élèves officiers. Il loue, à proximité de la caserne, quelques pièces. Une logeuse qui s'appelle la veuve Stolzenberg. Et là... Ben, ces jeunes hommes savent qu'ils sont en sursis. Dans quelques semaines, nous sommes en 1915, à la fin de l'hiver 1915, ils vont partir sur le front russe dans les Balkans. Et au moment où ils s'entraînent, où ils font leur classe, un petit peu harcelés par des caporaux ou par des adjudants très autoritaires, et qui savent ce qu'ils font, ces sous-officiers, parce qu'ils savent que ces bleus vont aller au casse-pipe bientôt, et que plus on leur mettra un peu de plomb dans l'aile, et moins ils auront de chance d'en recevoir sur le champ de bataille. Mais ils vivent à Berlin. Les hôpitaux regorgent de soldats horriblement blessés, horriblement mutilés. Il faut rappeler que la période la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, ce sont les 8 premiers mois de la guerre, rien que du côté français. Il y a à peu près 40% des 1,8 million poilus français tués pendant la guerre qui vont l'être pendant les 6 premiers mois.
Les trains venus du front vomissent les blessés, c'est ce que vous dites.
Oui. Et bien ces jeunes hommes cherchent à profiter de la vie parce qu'ils savent qu'ils sont en sursis. Donc Hans Leip va tomber amoureux d'une jeune fille blonde, filiforme, qui s'appelle Marlène, qui est une infirmière, qui est la fille d'un médecin berlinois. Et cette jeune femme, comme lui, n'arrête pas de soigner des blessés horriblement défigurés, et donc elle connaît le coup de la vie. Ses amis sont comme lui, et un de ses colocataires fréquente la fille de la logeuse, ou plutôt sa nièce, la nièce de la logeuse, qu'ils ont baptisée Lily, et qui nourrit les poules dans la cour de l'immeuble tous les jours. Et puis il va se passer une chose très étrange. Hans Leip est toujours en retard, très indiscipliné, un peu bohème. Et un jour, il est très en retard pour se rendre à la caserne où il dévale les escaliers 4 à 4.
Donc c'est la caserne des Coccinelles.
Pour s'y rendre.
Pour la caserne des Coccinelles. La caserne des Coccinelles.
C'est un nom qu'on a donné à cette caserne à cause de l'uniforme de ces jeunes élèves officiers qui doit comporter un peu de rouge. Enfin, il ressemble à des Coccinelles. Enfin, c'est un uniforme de parade qui ne va pas être celui qu'ils auront sur le front, rassurez-vous. Et donc, ce jour-là, il croise Lily, la petite amie de son colocataire. Et il y a une sorte de pulsion réciproque très étrange qui fait qu'ils vont échanger un baiser. Il ne se passera rien d'autre, mais ils vont simplement échanger un baiser et puis ils filent vers sa caserne. Quelques jours après, Hans Leip est très heureux car, pour la toute première fois, il va se retrouver avec Marlène, sa vraie petite amie, sa petite amie en titre, en tête à tête. Alors il a demandé à ses colocataires de laisser la place libre. L'appartement est libéré, ils sont allés voir ailleurs s'il y était. Et il dispose de l'appartement quasiment pour la journée. Marlène arrive, elle monte l'escalier, elle ferme la porte à double tour, et là, elle commence à enlever ses vêtements. Oui, mais malheureusement, la veuve
est passée par là.
Stolzenberg, la logeuse, n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Elle a certainement, car elle est toujours en train de veiller dans les escaliers, elle a certainement surpris le baiser qu'ont pu échanger Hans et Lily. Et le jour où elle voit arriver cette blonde, aussi blonde que sa nièce peut être brune, aussi filiforme que sa nièce peut être rondouillarde, elle n'apprécie pas du tout. Et comme elle est la gérante de ces locations, elle possède toutes les clés. Et au moment fatidique où Hans et Marlène sont face à face, ont laissé tomber leurs vêtements sur le parquet, la porte de l'appartement va s'ouvrir à toute volée. La veuve Stolzenberg va faire irruption et va faire un véritable scandale. Et bien évidemment, Hans et Marlène ne vont pas pouvoir s'aimer. Et malheureusement, dans les jours qui suivent, Hans, qui a été très indiscipliné, a totalisé les punitions. Et entre le moment où ils ont été surpris par la veuve et son départ sur le front, 10 jours plus tard, il va rester consigné à la caserne. Il va devenir obligatoirement cette jeune sentinelle qui ne pourra pas faire ce que vont faire ses amis, c'est-à-dire aller boire, voir leurs petites amies, se distraire avant de partir sur le front. La seule chose...
Y compris les soirs d'ailleurs, où on pouvait éventuellement être libéré pour cela.
Bien entendu.
Le samedi soir.
Mais là, il n'y a plus de permission, il n'y a plus du tout de liberté. Il est consigné dans la caserne. La seule liberté qu'il aura, c'est à un moment... Lorsqu'il sera la jeune sentinelle, donc en train de tourner, de faire les 100 pas devant le portail de la caserne, au petit matin, Marlène va passer le voir. C'est la dernière fois qu'il la verra. Il ne la reverra plus jamais. Et dans les heures qui ont suivi, assis sur son lit de camp où il ne trouve pas le sommeil, pris par un coup de cafard épouvantable, Hans va rédiger un poème qui fait 5 strophes dans sa tête, mais dont il ne va rédiger que 3 strophes. Et de Lily et de Marlène, il va faire une chimère et il va écrire la chanson de la jeune sentinelle qui, beaucoup plus tard, deviendra Lily Marlène.
Alors, beaucoup plus tard, c'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire dans les années 30, parce qu'après qu'il ait écrit ce texte, il ne rédige pas 2 strophes qui sont pourtant dans son esprit, car il fait allusion à sa mort. Il dit dans les paroles, mais s'il m'arrivait quelque chose, que ferais-tu, Lily Marlène ? Qui viendrait t'attendre sous la lanterne ? Ça ne serait plus moi. Donc, il est quand même superstitieux. Il part sur le front russe avec ses amis colocataires et la chance de Hans. C'est que dans les semaines qui vont suivre, il va tomber d'un pont lors d'un déplacement militaire, se casser une vertèbre, être très gravement blessé, soigné et démobilisé dès le mois de décembre 1915. Donc il ne sera resté sur le front que quelques mois dans les Balkans. Et retour à la vie civile, donc, au tout début de l'année 1916. Après la guerre, Hans devient un auteur à succès, un poète, un écrivain reconnu, multitalentueux, car il est également très connu pour ses dessins, ses toiles, dans le domaine des arts graphiques. Et en 1937, il publie un recueil de poèmes dans lequel on trouve la chanson de la jeune sentinelle, cette fois-ci avec ses 5 strophes, puisque, ayant survécu à la guerre, il n'a plus lieu d'être superstitieux.
Alors, la chanson de la jeune sentinelle, en fait, c'est sous ce titre qu'elle existe.
C'est sous ce titre qu'elle existe.
On la découvrira sous le nom de Lili Marlène qu'à partir de quelle date ?
Que plus tard. Eh bien, on est en 37, donc, et il vient de publier ce recueil de poèmes dont la traduction littérale est « Le petit accordéoniste du port ». Et cette chanson atterrit entre les mains des compositeurs divers et variés qui aiment beaucoup Hans Leip, car ils savent que ses poèmes se prêtent à la chanson et que très souvent, les paroles de ses poésies font d'excellentes chansons. Voilà, de cette côté Hans. Et puis on va passer au deuxième tableau de cette rétrospective. On a commencé par Radio Belgrade, on vient d'évoquer le destin de la jeune sentinelle. On est en 1937, sur le marché, on a ce recueil de poésie. Et puis on a une chanteuse qui s'appelle Leil Andersen. C'est son nom de scène, c'est un nom qu'elle a depuis relativement peu de temps. Cette chanteuse est originaire de Bremerhaven. Elle était la fille du pilote du port de Bremerhaven. Elle a donc été bercée par les chansons de marins. Et elle s'est mariée très tôt, par désir d'émancipation, avec un peintre qui s'appelait Paul Wilke. Et elle a divorcé très tôt, après avoir fait 3 enfants. Donc c'est une femme assez moderne pour son époque. Et après avoir divorcé, elle devient comédienne et chanteuse. Elle chante dans les petits cabarets de Munich et de Berlin, des chansons de marins. Et puis un jour, eh bien, il va se passer tout un tas de choses dans sa vie. D'abord, avant la guerre, bien avant la guerre, dans les années 35, elle est la maîtresse d'un certain Rolf Liebermann, qui à cette époque est un jeune chef d'orchestre, compositeur juif. Et c'est son histoire avec Rolf Liebermann qui va inspirer son film à Fassbinder. Fassbinder a tourné un Lili Marlène qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, la véritable histoire que je vais vous raconter, mais qui, nonobstant, est un film magnifique. Et le segment qui intéressait beaucoup Fassbinder, c'était l'avant-guerre, et puis le début de la guerre de Leil Andersen, lorsqu'elle était la maîtresse de Rolf Liebermann. C'est une femme très libre. Parmi ses autres amants, il y a un certain Norbert Schulz, qui est un compositeur. Et puis il y a un pianiste, qui est son époux spirituel, je ne sais pas s'il a été son amant, mais elle l'aime beaucoup, qui s'appelle Rudolf Tink, qui lui aussi est compositeur, et très doué. C'est un ancien élève d'Hindemith. Et il va se passer quelque chose d'incroyable. Alors que Norbert Schulz n'est plus son amant depuis plusieurs années, et qu'elle a perdu tout contact avec lui, alors qu'elle est toujours en contact avec Rudolf Tink, les deux compositeurs, à un an d'intervalle, vont écrire une mélodie sur les paroles de la chanson de la jeune sentinelle.
Mais alors comment le recueil de poèmes paru en 1937 est-il tombé entre les mains de ces compositeurs ?
Oh bien parce qu'ils sont aux aguets de ces textes qui se prêtent à l'adaptation en chanson. Ils sont aux aguets, il leur faut trouver des paroles sur lesquelles écrire des musiques afin de vivre de leur art, tout simplement. Et donc l'un et l'autre sont tombés sur le recueil des poèmes d'Hans Leip, et l'un et l'autre, chacun d'entre eux a flashé sur la chanson de la jeune sentinelle. Le premier, c'est Rudolf Tink. Et Rudolf Tink va proposer à Leil Andersen une mélodie sur les paroles que tout le monde connaît, un an avant que Norbert Schulz ne lui propose une deuxième mélodie sur les paroles que tout le monde connaît.
Alors c'est peut-être à ce moment-là, Jean-Pierre Guénot, que l'on peut écouter justement cette mélodie que personne n'a jamais entendue jusqu'à présent, puisque celle de Rudolf Tink, c'est celle que vous avez en exclusivité ici même et que vous allez nous faire partager et analyser.
C'est un scoop absolu, car Leil Andersen s'est mise à chanter les deux mélodies alternativement dans les petits cabarets de Munich et de Berlin. Elle avait une nette préférence pour la mélodie que vous allez entendre, qui est un scoop absolu, la mélodie écrite par Rudolf Tink, qui est très schubertienne, qui est un peu représentative d'un monde finissant. Mais c'est l'autre mélodie, celle que nous avons entendue au début de cette émission, qui va l'emporter, tant il est vrai qu'elle est martiale, beaucoup plus entraînante, et qu'elle accompagne la guerre qui commence à monter sous le pas rythmé des soldats SA, des soldats SS, des soldats nazis, qui prennent de plus en plus de pouvoir dans cette Allemagne des années 30.
Alors on écoute la chanson de la jeune sentinelle, puisque c'est toujours son nom à l'époque.
C'est toujours son nom.
Par Rudolf Tink.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst, Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, sah man gleich darauf.
La chanson de la jeune sentinelle, donc version Rudolf Zink. Alors, Jean-Pierre Guénot, il faut que vous expliquiez pourquoi c'est l'autre version qui l'a emportée. Parce que qui a fait le choix, en fait, que l'une ou l'autre des versions s'impose ?
Le public. Le public de ces cabarets.
Mais il a eu accès aux deux versions.
Il a accès aux deux versions, puisque à partir de 37, de 1937, Leyland Andersen chante la mélodie de Zink, puis elle enchaîne à partir de 38 avec la mélodie de Norbert Schulze, et elle alterne les deux. Et elle se rend compte du fait que même si elle préfère celle que nous venons d'entendre, c'est l'autre qui l'emporte. Elle commence au son du clairon, le Zapfenstreich. Il y a un côté martial, militaire, très très entraînant. Les gens ont besoin de ça à l'époque. Et puis le juge de paix, c'est pas seulement le public, ça va être la maison de disques Electrola, qui décide d'enregistrer, de faire un disque avec la version qui plaît, et qui est la version de Norbert Schulze. Ce disque va être enregistré en 1939, et va être un échec total, puisque on en vendra à peu près 700 exemplaires. Et là...
Et c'est celui que Radio Belgrade va reprendre.
Voilà, le disque tombe à la trappe.
Le 18 août 1941.
Arrêt sur image. On est en 39. Il ne va rien se passer pendant quasiment deux ans. La guerre éclate. Et puis quand on est bien installé dans la guerre, c'est ce disque que Hans-Karl Reitgen sort du rebut et programme.
Mais Jean-Pierre Guénot, la première version, enfin l'une de ces deux versions, celle de Rudolf Zink, aurait pu connaître aussi un grand succès planétaire, ne serait-ce que par écho, en faisant écho à la version la plus connue. On connaît souvent cela dans le domaine musical, où des versions différentes connaissent aussi un grand succès.
Oui, ce n'était pas le cas à l'époque. Oui. Et pourtant, chacune des deux mélodies véhicule une grande mélancolie, une grande nostalgie. Mais je crois vraiment qu'avec ces accents schubertiens, la mélodie de Zink était vraiment synonyme d'un monde finissant, d'un monde merveilleux, mais d'un monde finissant. Quelque chose avait fini, quelque chose d'autre allait commencer.
Laquelle a votre préférence ?
C'est très difficile à dire parce que on n'est pas dans la même catégorie. La seconde, celle de Norbert Schulze, celle que tout le monde connaît, c'est la postérité qui en a fait ce qu'elle est. Et c'est l'explosion, cette chanson qui est arrivée à transcender tous les clivages, qui a été chantée pendant quasiment toute la guerre en allemand, par l'ensemble des belligérants, y compris par les Anglais et par les Américains, qui est chanté par les civils. C'est quelque chose d'incroyable. Rendez-vous compte, 48 adaptations, 48 langues en l'espace de 6 mois. Ce disque vendu à 700 exemplaires, en avril 42, on en a vendu 160 000. Quand les premières versions anglaises vont sortir très tard, au printemps 44, le nombre de disques vendus se chiffrera en millions. Chaque jour, pendant l'automne 41, il y a des jours où Leyland Andersen reçoit 120 000 lettres par jour.
120 000 lettres par jour
à Radio Belgrade, qui viennent de l'ensemble des soldats allemands qui sont sur le front. Et tout le monde ne jure que par cette chanson. Les soldats qui sont loin de leur famille, de leurs petites amies, les petites amies qui sont loin de leurs amis, les mères qui sont loin de leurs fils, les mères qui ont perdu leurs fils. Tout le monde se reconnaît dans cette chanson.
C'est... Alors justement, Jean-Pierre Guénot, vous permettez que je vous cite. C'est un message universel, un message d'amour triste et nostalgique qui rappelle la tragique réalité de la grande solitude de l'être humain. Un poème qui parle aux adultes sevrés de leur enfance, aux fils séparés de leur mère, aux maris frustrés de leurs épouses, aux pères privés de leurs filles, aux amants qui se languissent de leurs maîtresses. Et réciproquement, un chant qui redonne une incroyable présence à ces silhouettes d'hommes ou de femmes croisées peut-être une seule fois dans une vie, jamais abordées, jamais étreintes, mais qui les embellissent soudainement, qui les idéalisent pour en faire l'unique objet de leur désir. Il ne s'agit plus seulement de l'errance des marins, il s'agit de la déshérence universelle, de l'infinie mélancolie, de l'inhumaine condition.
Oui, il y a quelque chose d'infiniment existentiel dans cette chanson qui transcende tous les clivages, qui fait l'unanimité malgré ce conflit terrible qui oppose une partie du monde à l'autre partie du monde. Et c'est sans doute la raison essentielle pour laquelle, très vite, Goebbels, l'âme damnée d'Hitler, l'homme de la propagande, l'homme de la culture nazie,
ne pouvait pas la supporter.
Va devenir totalement allergique à cette chanson et va faire tout ce qu'il peut pour essayer de détruire la chanson et pour essayer de détruire Leyl Andersen. Alors détruire la chanson, ça paraît facile, il va faire détruire la matrice du disque Electrola qui avait été pressé en 1939, mais rien n'y fait. Dans un second temps, il va essayer de faire interdire le fait que cette chanson soit interprétée par des femmes. Cette chanson est écrite par un homme, Hans Leip, mais ce sont souvent des femmes qui ont fait son succès.
Tollé.
Alors c'est le tollé, les soldats protestent, c'est pas possible. Et Goebbels va se casser les dents, car en fait, Leyl Andersen très vite se révèle avoir trois protecteurs. Son premier protecteur, c'est Rommel, le renard du désert, qui a tellement aimé cette chanson qu'il a fait programmer et reprogrammer. La deuxième protectrice, c'est Emma Göring, la femme de Göring, qui est une ancienne chanteuse d'opéra, qui adore tellement cette chanson qu'elle l'a fait chanter a cappella, on l'écoutera tout à l'heure, par sa fille, qui a l'âge de 4 ans et qui ne jure que par cette chanson. Le troisième protecteur,
c'est... Alors Göring, ce n'est pas rien, c'est quand même le numéro 2 quand même. Hein.
C'est le numéro 2, grand héros de la guerre de 14, grand aviateur, qui est devenu l'homme imposant et obèse que l'on sait simplement parce que pendant la guerre de 14, il a été très grièvement blessé, mal soigné à la morphine. Il est morphinomane, mais ce n'est pas de sa faute. C'est simplement parce qu'on le soigne et on soigne ses horribles douleurs. Et puis, le troisième protecteur, c'est Schmeling, le boxeur, le grand boxeur nazi. Car Schmeling n'a pas oublié que son biographe, pendant l'entre-deux-guerres, l'homme qui a médiatisé sa gloire,
c'est
Hans Leip.
Là, c'est quand même incroyable.
L'auteur du texte. Donc Schmeling adore Hans Leip et adore cette chanson. Ça fait quand même trois grands protecteurs, Madame Göring, Rommel avant sa disgrâce, et puis le boxeur, l'idole sportive de tous les Allemands. Donc, à chaque fois que Goebbels essaye de faire du mal à Leyl Andersen, il a du mal à le faire. Et alors, ce qui va aviver sa colère, c'est ce qui se passe, par exemple, du côté de Tobruk. Là, il se passe quelque chose d'étonnant. Nous sommes nombreux à avoir vu le film « Joyeux Noël dans les tranchées ». Eh bien, c'est l'équivalent de cette histoire, mais ça ne se passe pas pendant la Première Guerre mondiale. Ça se passe à l'automne 41. Nous sommes à Tobruk. Dans le désert, les Anglais et les Allemands sont à touche-touche, séparés par des tranchées, par des fortifications. Il n'y a pas de transistor à l'époque. Tous les soirs, les Allemands font écouter à leurs soldats à 21h45 tapante cette émission qui apporte aux soldats des dédicaces de leurs petites amies et dont l'indicatif est Lili Marlène, car entre-temps, vous l'avez compris, il n'est plus question de la chanson de la jeune sentinelle.
Ça, c'est depuis Radio Belgrade, tout de suite.
Tout le monde ne parle que de Lili Marlène, qui pendant toute la guerre est Leyl Andersen, qui reçoit ce courrier de ministre que l'on évoquait tout à l'heure. Et donc, comme on ne peut pas, à l'époque, comme on n'a pas de transistor, les Allemands prennent l'habitude de sonoriser des postes de radio, de les connecter à des haut-parleurs, et on peut écouter l'émission dans toutes les tranchées, dans toutes les positions allemandes. Mais on n'arrête pas les ondes. Et les Anglais écoutent. Et pendant plus de 10 mois, tous les soirs, du côté de Tobruk, il va y avoir une sorte de cessez-le-feu officieux. Les canons s'arrêtent à 21h45. Tout le monde écoute. Et quand l'émission n'est pas assez audible, les officiers britanniques prennent des mégaphones et demande aux positions adverses, aux Allemands qui sont en face, d'augmenter le volume de la chanson.
On va passer la séquence sur Tobruk.
Den Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich heraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Ferne stehen, wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley.
Schon riecht der Post sie blieben Pfaffenstein, es kann drei Tage kosten.
Jean-Pierre Guénot, c'est quand même inouï, ces Anglais qui demandent à chanter en allemand et à écouter une chanson en allemand quand même.
Et à écouter une chanson, on vient d'entendre une version interprétée par le Hein Quartet. Il y avait à l'époque les comédiens harmonistes, et il y avait d'autres groupes comme les Hein Quartet, qui étaient ces chœurs de jeunes hommes qui chantaient de façon un peu polyphonique et qui montrent à quel point cette chanson a eu un succès foudroyant, car très vite, en dehors même de l'interprétation de Leif Andersen, il y a eu de multiples interprétations, surtout des interprétations masculines, puisque je rappelle que Goebbels essayait de faire interdire les interprétations féminines. Alors vous vous doutez bien que des phénomènes comme ça, ce cessez-le-feu officieux sur le front du côté de Tobrouk, ça ne pouvait mettre Goebbels que dans une colère noire. Et donc il continuait à essayer de porter atteinte à cette chanson. Cette chanson, à ses yeux, était forcément décadente puisqu'elle était mélancolique, puisqu'elle donnait le cafard à tout le monde.
Démoralisante, hein. Démoralisante.
Et d'une certaine façon, c'était une juiverie, car tout ce qui était démoralisant, destructeur, aux yeux de Goebbels, c'était forcément quelque chose de négatif.
Hitler aura une parole plus neutre, « Cette chanson nous survivra ».
Oui, il dit un jour à son aide de camp, « Cette chansonnette nous survivra ». Ce qui prouve que Hitler est l'antéchrist, l'ange noir que l'on connaît, le monstre que l'on connaît, mais il a toujours eu un sacré sens politique, un sacré sens des choses, et là, il avait bien compris ce qui se passerait. Il avait autant de discernement qu'il en a eu en 1939, quand l'Allemagne a envahi la Pologne, à une époque où Hitler était en désaccord avec les trois généraux de son armée, lui seul avait misé sur la lâcheté des Anglais et des Français, et sur le papier, les généraux pensaient que tout était perdu, car il n'y avait, il faut le rappeler, que 23 divisions allemandes en face des 110 divisions alliées, et je ne compte pas là-dedans les 23 divisions polonaises. Donc Hitler avait un sacré sens politique.
Jean-Pierre Guénot, je reviens juste au moment où la chanson de la Sentinelle est produite à Munich, à Berlin, dans les cabarets. Est-ce qu'à ce moment-là, ceux qui l'ont écoutée se disaient « Tiens, ce sera, non pas le tube de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, mais est-ce qu'ils lui ont déjà donné, en quelque sorte, l'aura du succès à l'époque ?»
Non, pas du tout, je crois que c'était...
C'est resté une chanson de marin, une chanson militaire.
Oui, c'était une sorte d'aura très ponctuelle. Mmh. La preuve en est, c'est que si ça avait été le cas, le disque sorti en 39
ce serait bien vendu.
Aurait eu du succès. Or, 700 exemplaires, c'est quand même vraiment quelque chose d'archiminable. Non, je pense que...
Personne n'avait prédit le succès de Leni Marley.
Non, les choses n'étaient pas mûres. C'est d'autant plus amusant que Norbert Schulze, l'auteur de la mélodie, était un coquin. Car deux ou trois ans avant d'avoir fourgué, si j'ose dire, cette mélodie à Leif Andersen sur les paroles de Hans Leip, il l'avait fourgué à un autre commanditaire. Il était à l'époque employé par la firme Telefunken pour écrire des musiques publicitaires, car la radio régnait déjà à l'époque, et la publicité n'était pas télévisée, bien sûr, elle était radiophonique. Donc il fallait que des compositeurs travaillent pour donner aux publicités, aux réclames, des illustrations. Et Norbert Schulze avait vendu cette mélodie à la firme Chlorodon,
des dentifrices.
Pour une marque de dentifrice. Cette firme existe toujours. J'ai retrouvé le pacte scellé entre Norbert Schulze et Chlorodon. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'enregistrement de la publicité qui doit valoir son pesant de bananes.
Est-ce qu'on peut vous poser la question, d'ailleurs, de savoir comment la version de Rudolf Zing qu'on a écoutée, qu'on a appréciée tout à l'heure, est-ce qu'elle est aujourd'hui accessible d'une façon ou d'une autre ?
Elle est difficilement accessible. J'ai retrouvé cette version dans une sorte de petite compilation. Juste après la guerre, Leif Andersen a enregistré un certain nombre de versions de Leni Marlène. On reviendra tout à l'heure aux versions en anglais qui ont été ultérieures. Et elle a enregistré à ce moment-là cette version qui n'avait jamais été transférée sur un disque. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on a pu la retrouver, mais elle est assez difficile à identifier. Il a fallu que je cherche plusieurs mois pour arriver à retrouver la trace de cet enregistrement qui est légendé de façon telle qu'on ne le retrouve pas automatiquement.
Alors Jean-Pierre Guénot, on revient à Joseph Goebbels qui s'acharne sur Leni Marlène, qui estime que c'est une chanson démoralisante. On voit bien aussi le pouvoir des ondes qui est transversal, qui supprime les frontières, supprime les distances. On chante Leni Marlène en allemand alors qu'on est anglais, qu'on est d'une autre nationalité. Est-ce qu'il y a un moment où Goebbels va se dire « Non, de toute façon, j'ai perdu la partie, j'arrête ». Parce qu'il fera surveiller Leif Andersen par la Gestapo.
Il ne va pas aller aussi vite. Leif Andersen va aggraver son cas, et la chanson elle-même aggrave son cas avant que Leif n'aggrave le sien. La chanson aggrave son cas car elle est donc chantée par les Anglais, puis elle sera chantée par les Américains en allemand, jusqu'au printemps 1944. Donc ça, c'est pour Goebbels quelque chose d'épouvantable. Et Goebbels va obliger Leif Andersen, en 1942, à interpréter une version anglaise.
Pour démoraliser les troupes d'en face.
Oui, pour faire rayonner un petit peu sa propagande. Il y a des pays qui sont les ennemis de l'Axe, les ennemis des Allemands, dans lesquels on adapte très très vite la chanson. Et puis il y a des pays, entre guillemets, amis, comme la France. Suzy Solider est parmi les premiers chanteurs à adapter cette chanson avec des paroles françaises. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, de comparer les paroles françaises aux paroles allemandes, car chaque pays s'empare de cette chanson et la met à sa propre sauce, si j'ose dire. Et il doit rester du côté de l'INA, je pense, des archives, car 1941, ce sont les débuts de la télévision, l'ex-ORTF, rue Cognac-Jay, hein, bien avant l'ORTF. Ce sont les tout débuts de la télévision qui, au départ, est un canal de télévision qui est là pour le divertissement des soldats allemands blessés que l'on soigne rue Cognac-Jay. Et je sais qu'il existe une archive audiovisuelle dans laquelle on voit Suzy Solider devant des officiers nazis lors d'une grande soirée dans un cabaret quelconque, en pleine collaboration, et qui leur dit, bien maintenant, je vais vous interpréter ma dernière création, Lili Marlène, et l'envoie en grande pompe devant tous ces officiers qui ont laissé leur casquette nazie au vestiaire.
Alors, on va écouter justement la version de Suzy Solider.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir. On s'attendait, remplis d'espoir, tous deux, Lili Marlène, tous deux, Lili Marlène, tous deux, Lili Marlène.
La version de Suzy Solider, donc 1941, les Français sont donc parmi les premiers à adapter Lili Marlène. Pourquoi ?
Oh bien, parce que je pense qu'ils sont très sensibles à cette mélodie, ils sont comme tout le monde. Et donc, il y a une grande sensibilité. Je crois que c'est Henri Lemarchand qui adapte les paroles pour Suzy Solider. Et puis, enfin, bon, il y a entre la France de Vichy et l'Allemagne quand même une certaine forme de solidarité relative. Suzy Solider est une chanteuse de la collaboration, très, très nettement. Donc, on ne peut pas laisser de côté le plus grand tube qui est en vogue à l'époque dans l'armée allemande et que, bien sûr, on entend sans arrêt parce que la chanson de Leyl Andersen est diffusée partout. Elle est réinterprétée par des groupes polyphoniques de jeunes hommes, on l'a entendu tout à l'heure. Elle est même parfois interprétée de façon quasiment comique. Et après avoir entendu la version de Suzy Solider, il est intéressant d'écouter une autre version plus ou moins polyphonique qui est celle qui est interprétée par le Ein Quartett.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Alors cette version est très intéressante parce qu'elle prouve que Lili Marlène peut être chantée sur tout un tas de rythmes et avec tout un tas d'intentions. Là, on est aux antipodes de la mélancolie et de la nostalgie. On est presque dans l'autodérision. Hein, c'est un tel tube que certains s'en moquent et la chantent avec ses bruitages. Sont des fantaisistes qui chantent là et c'est très, très drôle. Mais c'est ça qui est merveilleux. Ça prouve son côté universel. Cette chanson est là pour accompagner les mauvais moments, mais aussi les bons moments. Elle est là pour... pour pleurer, pour s'étendre sur sa peine, sur sa mélancolie. Elle est là pour retrouver le sens de la vie et de la dérision.
Est-ce qu'il n'y avait pas un caractère un peu, justement, à travers l'aspect dérisoire ? Il n'y avait pas une arrière-pensée politique derrière de ridiculiser la notoriété de cette chanson ?
Peut-être, ou simplement c'est son côté universel qui faisait qu'elle se prêtait à tout. Et on le verra tout à l'heure quand on reparlera de la vengeance de Goebbels. Et on est donc au stade où vraiment c'est le grand succès. On est en 1942. Il s'est vendu cette année-là 140 000 exemplaires du disque, ce qui est énorme dans une Allemagne où les gens manquent de tout, où quand même il n'est pas évident on a autre chose à faire quand on meurt déjà il y a des restrictions, hein, c'est pas facile et on meurt un peu de faim déjà. On sait que ce qui étouffe petit à petit l'Allemagne, c'est quand même un contexte économique qui est pas facile. le ravitaillement est tourné vers les soldats plus que vers les civils.
Jean-Pierre Guénot, où achète-t-on les disques à l'époque ? Sous quelle forme se présente-t-il ?
Est-ce que c'est un produit de luxe ? En tout cas, c'est un produit qui est peut-être indispensable pour essayer de survivre, mais qui fait partie du superflu.
Oui.
C'est évident. Ces disques, ce sont des galettes, pas encore du vinyle, c'est une forme de... Ce sont ces disques facilement cassables, encore très épais, avec leur gros sillon. Et là... J'ai dit tout à l'heure que la chanson aggravait son cas, mais c'est Leif Andersen qui va aggraver son cas, car il y a un sous-ministre de la culture qui est un des bras droits de Goebbels, qui s'appelle Hinkel. Et Hinkel fait quelque chose d'ignoble, qui prouve qu'aujourd'hui, quand on fait de la propagande, on n'a rien inventé. Au printemps 1942, le régime nazi organise des voyages people, pour les médias, pour orchestrer ça avec les médias.
C'est-à-dire pas n'importe où.
Oui, on prend les comédiens, les chanteurs, les écrivains de renom, les Berlinois, les gens qui sont plutôt en phase avec le régime, si possible, ou présumé-t-il. Et la grande distraction du printemps 1942, ça paraît hallucinant, c'est d'aller visiter le ghetto de Varsovie pour voir crever de faim les enfants et les vieillards. Comme c'est intéressant, comme c'est pittoresque. Et... Leif Andersen, sans trop s'en rendre compte, est embarqué dans un voyage de ce genre. Et la veille de sa visite, alors qu'elle ne sait pas encore ce qu'on prétend lui montrer, il y a un grand bal, dont Hinkel, le bras droit de Goebbels, qui est une sorte de sous-ministre de la culture, est le grand maître. Tous les nazis sont en uniforme blanc. On est à la fin du printemps, il commence à faire chaud, donc on a l'uniforme d'été, cet uniforme magnifique, très impressionnant. Hinkel ouvre le bal avec Leif Andersen. Leif Andersen a un physique très moderne, elle est blonde, elle est filiforme, elle est très mignonne. Et Hinkel a quelques intentions évidentes. Il compte bien passer à l'acte, après les danses, à la fin de la soirée, avant la visite du lendemain. Oui, mais Leif Andersen ne va pas se laisser faire. Et lors du bal, lors de la première danse, alors qu'Hinkel a des mains très baladeuses, Leif Andersen le gifle en public, aux yeux de tout le monde. Ça fait un grand scandale. Et le lendemain matin, Leif Andersen refuse d'aller visiter le ghetto de Varsovie. Et puis elle va, quelques mois plus tard, encore aggraver son cas. Il va y avoir une commémoration du jour où Hans Karl Reitgen, par hasard...
Donc Radio Belgrade.
Ah voilà, en 1941. Alors c'est une date anniversaire. Donc les nazis essayent d'instrumentaliser ça et de faire une commémoration un peu officielle, invite Leif Andersen avec Norbert Schulze, le compositeur, elle va refuser de se rendre à la cérémonie et les gens, au désespoir, vont être obligés de faire interpréter la chanson par la femme du compositeur, la femme de Norbert Schulze. Alors là, vraiment, les choses tournent mal.
Imaginer l'audace quand même que ça pouvait représenter.
Nous sommes à l'automne 1942. Et...
Parce que là, le régime est quand même au fait de sa gloire. On n'est pas encore dans les revers militaires que l'on connaîtra à partir de Stalingrad.
Et qui vont suivre Stalingrad. Et là, Leif Andersen va trouver deux sbires de la Gestapo en bas de son immeuble et Goebbels va réussir à l'interdire de chant. Pendant 10 mois, Leif Andersen va être interdite de chant. Sa première réaction est catastrophée. Elle est déprimée par tout ce qu'elle a vu, parce qu'elle a vu à Varsovie, le ghetto, parce qu'elle endure. Elle a 3 enfants.
Parce qu'elle l'a vu finalement. Elle avait refusé
la visite. Elle n'a pas visité, mais si elle n'a pas visité, c'est bien parce que
c'est qu'elle savait.
On lui a décrit ce qu'elle y verrait, et puis qu'après, elle a dû en parler dans les semaines qui ont suivi. Et donc, elle est désespérée. Qui plus est, son métier lui permet de nourrir ses 3 enfants. Elle a un fils aîné qui est sur le front russe, qui se bat, mais il y a les 2 autres. Et là, prise d'un moment de désespoir, dans les mois qui suivent l'été 1942, elle se suicide. Elle se suicide, elle se rate, parce qu'elle est quand même sous surveillance, et donc on arrive à la récupérer de justesse. Mais elle reste interdite de chant quasiment jusqu'en avril 1943. C'est la Révolution. Les sacs postaux s'accumulent, les gens ne comprennent pas pourquoi elle ne peut plus chanter. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne diffuse pas sa chanson. Sa chanson reste très diffusée par les radios, mais elle n'a plus le droit de se produire, au grand désespoir des soldats allemands, parce que c'est une chanteuse à soldats. Elle vient soutenir le moral des troupes, elle est là en tournée, et à chaque fois, elle est censée chanter Lili Marlène, ce qu'elle ne va pas pouvoir faire à un moment très malheureux. c'est le tournant de la guerre, les choses commencent à...
On a besoin d'elle.
On a besoin d'elle plus que jamais.
En fait, c'est un suicide qui ressemble un peu à une grève de la faim.
C'est-à-dire oui, d'une certaine façon. Et puis on va réautoriser à chanter en avril 1943 en faisant pression sur elle, en lui rappelant que son fils est sur le front russe et qu'au moindre écart, il pourrait arriver des choses à son fils. Donc elle va continuer son rôle de chanteuse en restant le plus sage possible et en ne pouvant pas manifester son opposition, cette opposition qui lui avait fait gifler le bras droit de Goebbels, refuser de visiter le ghetto de Varsovie et refuser de participer aux commémorations de 1942.
Jean-Pierre Guénot, que deviendra Hans Leib justement quand il connaît la fortune médiatique de Lili Marlène?
Hans Leib est plutôt discret, finit à un moment donné par se faire un peu exfiltrer en Suisse. Il est en porte-à-faux total avec ce régime, enfin il ne partage pas du tout ses valeurs. Et tous les gens qui ont touché à ça, en dehors de Norbert Schulze, qui lui est un compositeur totalement collaborateur, qui compose des marches nazies, tous les autres ont eu des ennuis. Rudolf Zink, qui a des origines juives, va être très très vite dans le collimateur, parce que Goebbels a des fiches sur tous les gens qui ont entouré Leyland Andersen, et assez vite on envoie Rudolf Zink sur le front. Il survivra à la guerre, mais enfin, il va avoir une vie assez chaotique à partir de ce moment-là.
Alors, lui, il y échappera pour des raisons liées à sa santé ou
Liées à son âge, et puis liées à sa santé. Il a été définitivement réformé en décembre 1915. Quand on est inapte au combat en décembre 1915, on l'est a fortiori en 1942 ou en 1943. Donc, étant donné son âge et surtout la blessure, le dos cassé qui a été le sien, il n'en était absolument pas question. Et à ce moment-là, Goebbels n'arrive pas à faire déporter pendant qu'il l'interdit de chant. À l'automne 1942, idéalement, Goebbels aurait voulu faire déporter Leyland Andersen. Mais il y a toujours ces trois protecteurs qui sont là. Le bruit va même courir sur les ondes de la BBC que Leyland Andersen a été déporté pendant 15 jours. Et les Anglais font un peu pression parce qu'ils savent qu'elle est menacée. Ils le savent par leur service d'espionnage. Alors Goebbels cherche sa vengeance. Et sa vengeance, il va la trouver d'une façon terrible. Il va faire transformer la chanson de Leyland Andersen en marche nazie. Parce que comme cette chanson a un air très martial, elle se prête à tout, et pour peu qu'on trafique un peu le rythme, qu'on réalise un autre arrangement musical de la mélodie, tout en respectant la mélodie, on arrive à en faire ce que nous allons entendre, et il faut vous imaginer, c'est de la radio, donc l'image ne sera que plus puissante, les soldats nazis marchant au pas de loi au son de cette marche, Lili Marlène.
Lili Marlène, dans sa version militarisée, nazifiée en quelque sorte Jean-Pierre Guénot, et qui va connaître aussi un autre destin tragique d'une certaine façon dans l'histoire.
Terrible, parce qu'à la même époque, il y a des troupes spécialisées chez les SS qu'on appelle les Einsatzgruppen. Ces nervis vont parcourir la Pologne pour se rendre de l'Allemagne vers la Russie, et à chaque halte, que ce soit en milieu de journée ou en fin de journée en Pologne, ils commettent des exactions dans tous les bourgs, dans tous les lieux où ils passent. Ils éliminent systématiquement tout ce qui s'oppose à la machine nazie, les juifs, les tziganes, les socialistes, les communistes, les opposants en tout genre, les démocrates. Et ils réalisent ce qu'on appelle soit la Shoah par balle, soit la Shoah par brasier, c'est-à-dire que dans les villages où on passe, on fait creuser de grandes fosses, on y abat les gens à coups de balle dans la nuque, à coups de mitrailleuse, ou bien on les jette dans des brasiers énormes. Enfin, c'est Bruegel, c'est Jérôme Bosch, c'est l'enfer. C'est l'enfer absolu. Et il n'est pas rare que ces Einsatzgruppen, en Pologne, pour se donner du cœur à l'ouvrage, connectent des phonographes avec des haut-parleurs et balancent à tue-tête, la plupart du temps, la marche que l'on vient d'entendre, qui leur donne du cœur à l'ouvrage, hein, cette marche que Goebbels a fait réaliser pour se venger un peu de cette chanson qui pouvait avoir des airs nostalgiques, qui pouvait avoir des airs de dérision et qui, là, pour le compte, prend une tournure nazie. Alors, c'est ce qui va faire dire ou croire à tout un tas de gens que c'était aussi une chanson nazie, mais ces gens-là sont ignorants. Ils ignorent ce qu'était le personnage d'Hans Leip, le destin qui a failli être réservé à Rudolf Zink, l'auteur de l'autre mélodie, et puis surtout les misères qu'a pu endurer Leif Andersen.
Ainsi, Jean-Pierre Guénot, Lili Marlène se voit ainsi complètement, je dirais, comble du cynisme, voit sa signification totalement inversée et servir de décor macabre à des scènes épouvantables. Alors qu'en fait, au départ, c'est ce qu'on a dit dans cette émission, c'est ce que vous avez dit, c'est un message universel, un message d'amour triste et nostalgique.
Oui, tout à fait.
Là, c'est alors, le retournement complet.
C'est le retournement complet. Et alors, bon, on vient d'entendre cette marche tout à l'heure, après cette horreur, cette évocation des Einsatzgruppen, puisqu'on est dans l'horreur, on va y rester de façon paradoxale, avec une voix d'enfant. Puisque c'est en 1944 qu'Emma Göring, qui continue à protéger, à essayer de protéger Leif Andersen, fait réaliser un enregistrement de sa fille, Edda, qui a 4 ans, et qui va chanter Lili Marlène a cappella.
So wollen wir uns das wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Die eine Marlene, die eine Marlene.
Que vous inspire cette voix, Jean-Pierre Guénot? Parce que les voix d'enfants, dans des moments qui sont des cataclysmes historiques, comment peut-on les interpréter?
Elle a un côté terrible, parce qu'évidemment, la pauvre Edda Göring n'est pas responsable de ce qu'a pu faire son père. Et je ne me trompe, elle a épousé par la suite le fils de Benito Mussolini. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant, le destin. Donc, quand j'entends cette voix, je pense automatiquement à une autre photographie, qui est celle de toute la nichée de Goebbels. Goebbels avait de nombreux enfants, de nombreuses petites filles, et dans le bunker d'Hitler, le fameux dernier soir, la femme de Goebbels a empoisonné tous ses enfants. Elle ne voulait pas qu'ils survivent. Elle avait peur de mesures en sens inverse, enfin, dont ses enfants auraient pu être victimes. Et avec la complicité des médecins d'Hitler, elle les a tous empoisonnés. Ce qui est fascinant, quand on voit aussi une photo incandescente sur laquelle on voit Göring avec sa femme et sa fille, Göring dans cet uniforme blanc nazi que je décrivais tout à l'heure. On connaît l'uniforme noir, on connaît moins l'uniforme d'été qui était pourtant très, très saillant, incroyablement spectaculaire. C'est de voir cette petite fille. Quand vous voyez cette famille, vous pourriez lui donner le bon Dieu sans confession. Goebbels, c'est plus facile parce que lui, il a vraiment une sale tête, il a vraiment un peu la tête de Judas. Mais quand on voit la famille Göring, on n'a pas ce sentiment. C'est là que la vie, dans ce qu'elle a de plus ordinaire, rejoint certaines dimensions tragiques de l'histoire et qu'il y a quelques bugs, on a du mal à raccorder les choses.
Il y a d'ailleurs une photo célèbre de Göring, je crois, avec sa famille, où lui est derrière le canapé.
Il est derrière debout, avec ses décorations, avec son uniforme blanc, à côté de sa femme, très blonde, et puis de cette petite fille tout aussi blonde, dont on vient d'entendre la jolie voix.
Est-ce que cette voix a connu un destin, la voix de cette petite fille?
Non, pas vraiment. Non. Et puis, il est évident que ce n'est pas facile d'être le fils ou la fille d'un collaborateur, et c'est encore moins facile d'être le fils ou la fille, en l'occurrence, d'Hermann Göring.
Alors, on a parlé de la revanche donc de Goebbels, l'itinéraire extrêmement, finalement, somme toute, très sinueux qu'a connu Lili Marlène à travers l'histoire, des interprétations en très peu de temps qui vont se faire d'un côté comme de l'autre.
Les virages ne sont pas finis.
Les virages ne sont pas finis, justement.
Ils ne sont pas finis. D'abord, Goebbels, il a d'autres flèches dans son carquois. Il décide, en 1942, d'obliger Leif Andersen à interpréter une version anglaise de la chanson, et c'est la toute première version, car je répète que les services de propagande britanniques ne se sont préoccupés de tout ça que beaucoup plus tard. Ça n'est que fin 43, début 44, que les gens commençaient à se dire « mais ça va pas, ça, nos hommes, les Américains, les Anglais, chantent cette chanson en allemand, c'est une chanson nazie, ça va pas du tout ». Donc là, ils ont passé commande à un parolier, à un compositeur, pour en avoir une version anglaise officielle, qui est venue contrer la version que nous allons entendre, qui était la version interprétée à partir de 1942 par Leif Andersen.
the bugle, hear its silvery call, carried by the night air, telling one and all, now is the time to meet your pearl, to meet your girl, to meet yourself, as once I met Marlene, my sweet Lily Marlene.
Jean-Pierre Guénot, donc on est en 42 quand les Allemands sortent Lili Marlène, mais en anglais. Ce sont bien les Allemands qui la sortent, là.
Oui, oui, pour des raisons de propagande. Et Leila Andersen n'a pas le choix, elle doit le faire. Il faut rayonner, il faut faire rayonner cette chanson. Il n'a pas échappé aux Allemands qui n'avaient pas de version anglaise, en tout cas pas de version officielle.
Est-ce que ce n'était pas plutôt un atout de la garder en allemand et de faire chanter en allemand les autres peuples ?
Peut-être, mais je pense qu'ils ne le voyaient peut-être pas comme ça. Et puis, il fallait que les Allemands comptent un phénomène amusant, c'est que dès 41, et surtout dès 42, la résistance en France a commencé à diffuser des pastiches de Lili Marlène. Comme cette chanson était la chanson star absolue, bah, les résistants, quand ils faisaient des pastiches, ils faisaient toujours un peu, ils avaient la même technique. Ils prenaient des airs très connus et ils changeaient les paroles. Ça, c'est classique. Et on a énormément de versions de Lili Marlène parodiques, anti-nazis, dont une d'ailleurs qui a été écrite par Pierre Dac. C'est assez étonnant. Alors, elles ne sont pas disquées, elles ne sont pas interprétées. On imagine pourquoi, on est dans la clandestinité. Il ne reste de ça que les paroles, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est en voyant ça, en voyant que cette chanson pouvait être détournée, que les nazis se sont dit à un moment donné, mais somme toute, on a la version allemande, on va essayer de maîtriser dans les versions internationales celle qui devrait forcément être la plus courue, c'est-à-dire la version en langue anglaise. Alors les Anglais vont réagir.
Mais tardivement quand même, hein, les Anglais réagissent quand même tardivement.
Ah, ils réagissent très tardivement, fin 43, début 44.
Il faut le rappeler, Jean-Pierre Guénot, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à Tobruk, on est en 1941, quand les Anglais commencent à chanter en allemand.
Oui, tout à fait.
Et ce n'est que 3 ans, ce n'est qu'en 44 qu'ils vont éditer leur propre version.
Oui, et simplement parce que les services de propagande britanniques s'émeuvent de ce phénomène, un peu tardivement. Les gens qui s'occupent de propagande sont toujours un petit peu autistes sur les bords et ont toujours un certain décalage par rapport aux événements.
Alors, on écoute la version anglaise.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart, with me, Lily Marlene.
Alors, cette version de Lucy Mannheim, elle est intéressante parce que Lucy Mannheim, c'est une speakerine allemande qui est passée chez les Anglais au début de la guerre. C'est donc une Allemande qui travaille pour les Anglais et qui travaille pour la BBC. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en 1943, elle enregistre en Angleterre une version en allemand. C'est complètement fou. C'est une Allemande qui enregistre une version en allemand, avant même la version officielle qui ne va débarquer qu'en 1944. Donc, à ce stade-là, on pourrait faire un raccord et montrer que l'impact de la chanson est tel qu'une chanteuse allemande l'enregistre en Angleterre en 1943 en allemand, avant même qu'Anne Shelton, alors celle-là, véritable anglaise, ne reprenne la chanson, cette fois-ci en anglais, avec la version officielle Lily of the Lamplight.
Underneath the lantern by the barrack gate, darling, I remember the way you used to wait. Was there that you whispered tenderly that you loved me? You'd always be my lily of the lamplight, my own Lily Marlene.
Voilà donc la version anglaise, Jean-Pierre Guénot, de Lily Marlène. La version que les Anglais font en 1944, 3 ans après que les soldats anglais l'eurent écoutée à Tobruk en particulier. Est-ce qu'on peut noter quelque chose de singulier sur cette version anglaise de Lili Marlène?
C'est une œuvre de commande, généralement attribuée à un certain Toby Connor, mais qui en fait est l'œuvre d'un certain Phillips, alias John Turner, qui a trouvé les paroles en anglais alors qu'il venait de se perdre dans la brume sur une route de la campagne anglaise et qu'il avait été obligé de sortir une lampe torche pour retrouver son chemin. Et c'est là que l'inspiration a jailli. Il est donc le véritable auteur, John Turner, de « My Lily of the Lamplight », qui est la version anglaise. Vous venez de l'écouter, cette version, il y a quelque chose de merveilleux parce qu'elle annonce déjà la fin de la guerre et l'après-guerre, alors qu'on est toujours en pleine guerre. Elle a un côté beaucoup plus jazzy, très différent. On voit à chaque fois la force de cette chanson. Il y a un côté caméléon, c'est-à-dire que quels que soient les gens qui s'en emparent, quelle que soit leur intention, on a entendu depuis le début de l'émission « Au fil de l'eau », la version schubertienne de Rudolf Zink, la version martiale, celle qui a triomphé, de Norbert Schulze. On a entendu les versions parodiques des chœurs polyphoniques, parfois nostalgiques, parfois parodiques. On a entendu
la version Goebbels.
La version Goebbels, cette marche, ce détournement en marche SS. On a entendu la chanson chantée a cappella par la petite Göring. Et là, on est dans quelque chose qui commence déjà à annoncer ce qui va se passer quelques mois plus tard, quand Marlène Dietrich va s'emparer de la chanson, mais ça viendra bien après. Et c'est merveilleux d'entendre ce côté très, très jazzy qui correspond à l'Angleterre de l'époque, au sentiment et au fait que je crois les Anglais, quand ils se sont vraiment emparés de la chanson au point de la traduire, ont voulu aussi tailler la mélodie de façon telle qu'on ne soit plus du tout dans quelque chose qui ressemblait au côté martial, claironnant, qui caractérisait la première version.
Il n'y a aucune réminiscence allemande particulière dans cette chanson?
Non, aucune. Mais c'est ce qui prouve qu'elle est universelle, en fin de compte, et totalement protéiforme. Et alors, c'est d'autant plus troublant que, quand est venue cette chanson, enregistrée au printemps 44, elle faisait suite à un enregistrement réalisé en Angleterre par une Allemande. Car très tôt, il y a une speakerine allemande, une femme assez connue, speakerine, comédienne, qui s'appelait Lucie Mannheim, qui était anti-nazie, qui avait rejoint très tôt les Anglais, qui travaillait pour la BBC, et qui, en 1943, a enregistré en Angleterre une version de Lili Marlène en allemand.
C'est celle que l'on va écouter justement à présent.
Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlène, wie einst Lili Marlène.
Jean-Pierre Guénot, pourquoi Lucie Mannheim se met-elle à chanter en allemand Lili Marlène alors que les Anglais vont connaître leur version anglaise officielle, quelque temps après?
Parce qu'elle en a détourné les paroles. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est une sorte d'initiative en Angleterre, avant même que les choses ne soient définitivement prises en main par la propagande. Avant même la traduction, on détourne les paroles. Tout ça se passe à un tournant. Il y a eu, je crois, à l'époque, un film qui a été tourné, un documentaire de 32 minutes, qui a été tourné, là encore, un peu sur les ordres des services de propagande britanniques, qui, au passage, ont réinventé l'histoire de Lili Marlène en prétendant que la chanson avait été créée entre les deux guerres dans un land qui était hostile à Hitler. C'est-à-dire que les Anglais, quand ils commencent à s'emparer sur le plan idéologique de la chanson, la dénaturent. Ils ne veulent surtout pas dire qu'elle est originaire de la Première Guerre mondiale. Parce que c'est très subversif de dire ça. On sait très bien le lien qui existe entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. On sait très bien qu'on a ouvert un boulevard à Hitler avec le traité de Versailles. Donc ça ferait rentrer dans des choses qu'il vaut mieux pas évoquer. Et donc on réécrit dans ce documentaire de 32 minutes réalisé par Humphrey Jennings, à cette époque-là, on réécrit l'histoire de la chanson et on présente une parodie de la chanson de Leyland Andersen chantée par Lucie Mannheim. Nous sommes le 3 février 43. C'est quoi le 3 février 43? Bien, c'est le lendemain de la reddition de Von Paulus à Stalingrad. Et Lucie Mannheim, qui avait été présentatrice à la radio allemande, c'est une sacrée prise, avant la guerre, et qui n'avait pas voulu faire allégeance aux nazis, qui était passé de l'autre côté de la Manche, eh bien, présente cette chanson qui est comme une sorte de message symbolique envoyé à tous les soldats allemands embourbés sur le front russe, avec une version du texte qui est déjà plus au goût des Anglais, avant même qu'ils ne la traduisent avec encore une autre version. Cette version est destinée à renforcer le cafard des femmes allemandes, qui à l'époque sont crucifiées par les bombes alliées, séparées de leurs maris, de leurs fils et de leurs pères.
Donc la chanson en allemand est destinée, là devient un message de propagande britannique, destiné à démoraliser quelque peu la nation allemande qui subit les tourments des débuts de l'effondrement.
Oui, et il est intéressant de traduire cette version allemande qui a ensuite été traduite en anglais, qui est une version parodique. « Mon cœur est triste et lourd au moment où je t'écris, car depuis ton départ, la vie est triste et morne. Tu m'as dit un soldat doit faire son devoir, mais cela ne m'apporte aucun réconfort. J'attends sous la lanterne, je suis ta Lily Marlène. Tes amis sont morts, dit-on, engloutis sous la neige de Russie. Je crains que tu ne meures à ton tour, parce qu'Hitler le veut ainsi. Est-il vraiment impensable de retrouver nos pays, lavés de la honte et de la guerre, et de nous retrouver sous la lanterne, tous les deux, Lily Marlène ? Fureur, je te remercie, et te suis reconnaissant pour ta bonté, pour ta sagesse. Les veuves et les orphelins te remercient, avec leurs yeux cernés et silencieux. Hitler, le boucher sanguinaire, pendez-le sous la lanterne, pendez-le sous la lanterne. Oh, quelle fureur, Lily Marlène. Voilà où débouchent les parodies, hein, en fin de compte, qui, de fil en aiguille, font que Lucy Meinheim va d'abord chanter une version à peu près normale de la chanson en allemand, puis petit à petit, les paroles vont être détournées, et puis on arrivera à Al Shelton, où là, on ne sera plus du tout dans la parodie. On va se réapproprier totalement la chanson. C'est très intéressant de voir cette évolution. Et là encore, le côté protéiforme de la chanson, dont on arrive à triturer non seulement la mélodie, mais les paroles.
Jean-Pierre Guénot, maintenant, on arrive peut-être à un autre chapitre. On sait que vous le consacrez d'ailleurs, vous consacrez à ce chapitre un aspect sous l'angle d'une mise au point, si l'on peut dire. Il y a évidemment Marlène Dietrich. Il y a un prénom, celui de Marlène Dietrich. Il y a Lily Marlène. Dans l'opinion, on a fait tout de suite l'association d'idées entre les deux et on a fait débuter l'histoire quasiment au moment où Marlène Dietrich se met à chanter, non ? Dans l'opinion.
Totalement, très tardivement, c'est-à-dire quasiment après le débarquement. Marlène Dietrich s'empare de cette chanson très 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 tard et tout le monde va assez rapidement, un peu zapper, oublier Leyl Andersen. On oubliera même Anne Shelton, on oubliera tous les gens, les milliers d'interprétations de cette chanson. D'une certaine façon, Marlène Dietrich va tout cannibaliser pour deux raisons. D'abord, elle est très connue à l'époque. Elle aussi a rejoint l'autre camp très vite. Elle fait partie de ces Allemands dissidents de la première heure. Mais ça va irriter, ça, Marlène Dietrich, parce que sa vraie carrière, c'est une carrière de comédienne. C'est l'Ange Bleu. Sa vraie carrière est avant la guerre. Et à cette époque-là, les gens, progressivement, elle va devenir pour le monde entier Lily Marlène. Et on ne va la résumer qu'à ça. Et même si elle a un succès mondial et planétaire, et même si ça l'amuse, ça l'irrite, parce qu'elle estime être autre chose que ça, elle n'a pas du tout envie qu'on la résume à cette seule chanson. Mais cela dit, elle est mal partie, parce que cette chanson, dans sa bouche, devient l'hymne de la libération. C'est quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'elle se répand comme étant le synonyme absolu de la liberté reconquise, de la liberté retrouvée.
Sous-étendard américain,
et on a entendu tout à l'heure la version d'Anne Shelton, il est temps d'entendre la version chantée par Marlène Dietrich en 1945.
Lily Marlène, dans la version de Marlène Dietrich, il faut traduire les paroles, bien sûr, Jean-Pierre Guénot, puisque là, justement, ces paroles, l'histoire a passé et a marqué terriblement ces paroles. Devant la caserne, près d'un lampadaire, je serai toujours là. Je t'attendrai tous les soirs. Nous recréerons un monde rien que pour nous deux. J'attendrai toute la nuit s'il le faut. Je t'attendrai, Lily Marlène. Et là, le second passage, ce soir, Clairon, n'appelle pas à la guerre. Je veux passer encore une nuit dans ses bras. Et puis nous pourrons nous dire au revoir et nous séparer. Tu resteras toujours dans mon cœur, avec moi, Lily Marlène, avec moi, Lily Marlène.
Oui, on a la chair de poule. On a vu tout à l'heure, on a écouté la version jazzy d'Anne Shelton. Là, il y a un autre mot qui vient avec cette chair de poule, avec ces frissons qui nous traversent. C'est le mot langoureux. le temps de la guerre est fini, c'est le temps de l'amour qui revient et il se passe là quelque chose de magique. Et là encore, on parlait de chansons protéiformes tout à l'heure, c'est quelque chose d'incroyable. Vous l'avez dit vous-même, même le symbole du clairon est complètement retourné. Il n'y a plus de clairon. Il n'y a plus de clairon, on est tout à fait dans un autre univers. Et c'est intéressant de voir que cette version va beaucoup influencer les gens qui chanteront ensuite Lili Marlène, Lail Andersen elle-même, dont on a des enregistrements datés de 48, de 49, des enregistrements postérieurs à la guerre et qui, eux aussi, bien sûr, vont totalement changer de connotation. Alors on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On est au stade donc où il y a une forme d'amnésie qui s'est répandue, hein, c'est définitif, pour pas mal de temps. Lili Marlène, c'est Marlène Dietrich, en plus il y a la juxtaposition des prénoms, donc c'est absolument parfait. Là, il va se passer pas mal de choses. De leur côté, les Américains vont profiter de la libération pour carotter les droits. Alors déjà, pendant la guerre, je pense que les gens qui ont trempé dans cette chanson n'ont pas touché grand-chose, mais ils toucheront encore moins de choses après la guerre, car tous les droits intellectuels de l'Allemagne, sous prétexte qu'elle avait été nazie, ont été carottés pendant plusieurs décennies par les Américains, qui se sont mis à encaisser les droits par des subterfuges divers. Il y a des gens qui ont eu des ennuis. Norbert Schulze a eu des ennuis après la guerre. Il a été condamné à 2 ans d'indignité nationale, condamné à des travaux d'intérêt public. Il le méritait bien. Il avait composé une marche nazie qui prônait les bombardements de l'Angleterre par les bombardiers nazis. Et ça avait vraiment été un compositeur très, très collaborateur, très arrangeant avec le régime nazi. Ça ne l'a pas empêché de devenir, dans une ville ultérieure, après avoir été soi-disant dénazifié, ça n'a pas empêché de devenir le patron de la GEMA, c'est-à-dire l'équivalent de la SACEM française. Donc cet homme est redevenu un très grand dignitaire allemand, après coup, ce qui est assez étonnant.
C'est le fait qu'il ait composé la version la plus connue de la guerre de Lili Marlène.
Peut-être, mais puis ensuite il a continué à énormément travailler. Il est certain que c'était un compositeur doué. Mais de la même façon que von Braun, après avoir été blanchi par les Américains et devenu le numéro 2 de la NASA, alors que c'est un SS, von Braun, c'est un savant SS, il ne faut pas oublier que c'est sur son initiative, sur son idée, qu'on a fabriqué des missiles, les V1 et les V2, pour les balancer sur les civils britanniques. Au départ, ce n'est pas une initiative militaire, c'est l'initiative d'un cerveau, d'un savant qui s'appelle Werner von Braun.
Et des milliers de personnes sont mortes, des milliers de prisonniers sont morts au camp tunnel usine de Dora.
Oui, et il savait très bien que les travailleurs prisonniers qui rentraient dans les camps qui fabriquaient ces missiles n'en ressortaient jamais. Donc on ne peut pas le soupçonner de cécité à cet égard.
Mais il a fait du purgatoire aux États-Unis.
Très peu, très peu.
Mais il a évolué. Dans sa tête, il avait pas mal évolué, non?
Oui, je ne sais pas ça. Les Américains ont quand même exporté la plupart des savants nazis et les ont blanchis. Il y a eu un programme spécialement parce qu'ils avaient besoin de leur science. Donc ils les ont recyclés. Alors on conçoit que l'on recycle chose, mais de là à faire de von Braun le numéro 2 de la NASA, il y a quand même quelque chose. Alors certes, c'est en partie grâce à lui que l'homme a marché sur la Lune, mais enfin, science sans conscience, hein, voilà, on n'épiloguera pas. Donc on se retrouve après la guerre. Lail Andersen elle-même va devoir, dans un premier temps, être un peu discrète, parce que, à cause de ce qui s'est passé en Pologne, parfois on l'assimile un peu, on en fait une chanteuse à soldats, il y a encore des gens qui pensent que cette chanson est nazie. Donc elle est un peu discrète, mais très vite elle est quand même utilisée par les Anglais, par les Américains. Elle est toujours une sorte de chanteuse à soldats, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de tourner devant des milliers de soldats, de blessés, qu'elle vient soutenir en chantant. Voilà. Donc elle fait une très très belle carrière, puis elle continuera sa carrière.
Mais lesquels? Ceux de la guerre de Corée?
Oui. Alors d'abord les blessés de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on va mettre plusieurs années. Certains sont en convalescence longue, hein, ça va durer plusieurs années. Puis après, il y aura la guerre de Corée, il y aura la guerre d'Indochine. Et Lili Marlène reste le symbole des combattants de toutes les guerres, de ces guerres orphelines qui ont suivi, comme le disait Élie de Saint-Marc, qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'hallucinant. Alors d'un côté, elle reste très prisée dans tous les pays du monde développé, du monde capitaliste, diraient certains. Et alors, chose curieuse, pour les mêmes raisons qui ont fait que cette chanson avait fortement déplu à Goebbels, elle va être interdite systématiquement dans tous les pays totalitaires. On va prendre 2 exemples. La RDA, d'avant la chute du mur de Berlin, et la Yougoslavie de Tito. Où, pour les mêmes raisons, cette chanson est interdite parce que, comme elle transcende les clivages, elle est forcément décadente et subversive. Donc on ne veut même pas en entendre parler. Alors c'est très intéressant de voir que cette chanson qui reste l'hymne de tous les soldats dans tous les conflits, on a parlé tout à l'heure de la Corée, de l'Indochine, on aurait pu parler du Vietnam. À l'inverse, elle est interdite dans les pays totalitaires, mais elle prend également une nouvelle dimension au moment de la guerre froide, au moment où il y a une grande menace de bombes nucléaires. Elle va devenir l'hymne des antinucléaires. C'est quelque chose de très étonnant. Et tous les gens qui luttent contre la bombe, en Allemagne ou dans les autres pays, utilisent comme étendard vocal et sonore Lili Marlène. Donc c'est très étonnant de voir que cette chanson continue à avoir un destin. Et ce destin, elle a failli l'avoir il y a quelques années, en 2004, à Arromanches, lors des commémorations du 60e anniversaire du débarquement. Patricia Cass a été plébiscitée pour, au moment de l'apogée des cérémonies, diffusées en Mondiovision devant tous les chefs d'État, pour chanter Lili Marlène. Tout le monde était d'accord. Et puis la veille du jour J, c'est le cas de le dire, il y a eu un veto de la Pologne, qui venait de retrouver un peu la mémoire et qui se souvenait de ce qu'avaient fait de la chanson les Einsatzgruppen quand ils sévissaient en traversant la Pologne. Alors, pour ne heurter personne, au tout dernier moment, il a été décidé que Patricia Cass chanterait l'hymne à l'amour. Et elle n'a pas chanté Lili Marlène. C'est donc intéressant de voir que nous avons fait un sacré voyage là, dans le temps, hein, depuis la fin de l'hiver 1915, le début du printemps 1915, avant que Hans Leip ne parte dans les Balkans, sur le front russe, jusqu'aux commémorations du 60e anniversaire du débarquement. On voit que cette chanson porte en elle toute la mémoire de l'Europe, toute la mémoire de l'histoire de l'Europe, avec sa part de miel, avec sa part de vinaigre. On a vu son côté protéiforme, incroyable, oui. Transformé en marche nazie, transformé en marche pacifiste par les opposants à la bombe nucléaire. C'est quelque
chose
de très
intéressant. C'est le sursaut, en fait, ce qu'il explique, c'est peut-être ce sursaut de deux êtres qui se voient pour la dernière fois avant l'épreuve.
Oui, il y a quelque chose d'universel.
Il y a ce caractère d'épreuve, de douleur qui fait naître en fait les sentiments les plus nobles, les plus grands. C'est dans l'épreuve en fait qu'on s'éprouve.
Oui, et puis alors, il y a eu beaucoup de films de série C, D, E, F, je ne sais pas, sur la guerre, des petits films de guerre, dans lesquels, dans les années 50, dans les années 60, on avait des scènes où on voyait le dernier U-boat allemand alors que la guerre était déjà finie. Mais il y a toujours des gens qui ignoraient ça. Alors, il y avait des U-boats en errance qui émergeaient du côté des côtes des pays d'Amérique du Sud, parce qu'il y avait aussi peut-être des gens qui cherchaient à se cacher à ce moment-là. Et alors, quand les gens faisaient une émission périscopique, ils sortaient leurs antennes, et pour divertir un peu leurs équipages, ils captaient ce qu'on écoutait à la radio. Et il n'est pas rare dans ces films de série C, de série D, qu'on voit ces combattants, soit en pleine guerre, soit un peu après la guerre. Et qu'est-ce qu'on écoute ? Et qu'est-ce qui est le synonyme de toute la mélancolie du monde ? C'est Lili Marlène, toujours. C'est cette chanson absolument universelle, reprise maintes et maintes fois depuis par des groupes punk, dans tout un tas de styles, dans tout un tas de genres.
Est-ce qu'elle débordera la culture européenne ?
Oui, totalement, parce qu'il y a eu des versions russes, il y a eu des versions chinoises, il y a eu des versions japonaises. Elle est allée bien au-delà de l'Europe, cette chanson. Sa résonance, sa mélodie a colonisé le monde entier. Alors, ce livre dont nous avons parlé, qui paraîtra un jour ou l'autre aux éditions Télémaque, je le retiens pour l'instant, car j'aimerais que le CD qui l'accompagnera soit rempli des archives que nous venons, grâce à vous, d'écouter et de faire découvrir, mais qu'il soit rempli aussi d'une interprétation contemporaine, parce qu'il y a un segment que nous n'avons pas écouté, et nous l'avons gardé pour la fin. Ce n'est pas le plus joli, mais ce n'est pas le moins émouvant. Quand Hans Leip, au début de l'année, aux alentours d'avril 1915, compose son texte peu de temps avant de partir dans les Balkans sur le front russe, on a retrouvé son manuscrit original. Je vous ai dit en début d'émission qu'il n'avait enregistré que trois strophes, superstitieux qu'il était, ne rédigeant surtout pas les strophes qui faisaient allusion à sa potentielle disparition. Eh bien, sur le même document, sur le même manuscrit, Hans Leip a griffonné une petite portée musicale avec quelques airs de musique. Alors on va entendre deux versions très moches de ça, une version réinterprétée avec un horrible synthétiseur, pardon pour les oreilles de nos auditeurs, et puis juste après, on entendra un deuxième segment où on entendra, dans les années 70, alors qu'il était interviewé par la BBC, Hans Leib chantait lui-même sa propre mélodie très, très brièvement. On va avoir, découvrir donc un second scoop. En début d'émission, nous avions découvert
Rudolf Zink,
l'autre mélodie. Là, nous allons découvrir la troisième mélodie, celle à laquelle pensait Hans Leib lorsqu'il a rédigé son poème en 1915.
Großen Tor stand eine Laterne und stand sie noch davor. So wollen wir uns dort wiedersehen. Vor der Laterne wollen wir stehen, wie einst in Limmerlein. Limmerlein.
Alors, ce que l'on vient d'entendre, Jean-Pierre Guénot, ça aurait dû en fait être Lili Marlène telle que son auteur l'aurait souhaité.
Oui, absolument. Mais alors, on ne mélange pas. Il n'était pas compositeur, Hans Leib. Mais c'est tout à fait intéressant. Vous savez, à chaque fois qu'on écrit des vers, on a souvent une petite mélodie dans la tête. Et ça, c'est la mélodie qu'avait Hans Leib dans la tête quand il a écrit son texte. Hans Leib a continué à vivre, a été un écrivain de grand renom après la guerre. Il faut quand même rappeler qu'Eisenhower lui avait rendu hommage à propos de Lili Marlène, en disant de lui qu'il avait été le seul Allemand qui avait rendu le monde plus heureux pendant toute la guerre. Hommage d'Eisenhower, Ike, dont je rappelle qu'il a été le grand chef d'orchestre du débarquement et donc d'une partie de la libération de l'Europe. Ça, c'est quelque chose de très émouvant et je crois qu'une des choses sur laquelle on peut s'interroger en cette fin de trajectoire de ce qu'a été la plus belle chanson d'amour peut-être du XXe siècle et le premier tube mondial de la chanson mondiale, on peut s'interroger en se disant comment expliquer la magie de Lili Marlène, de cette chanson, de sa mélodie qui ont été tellement adorées, accaparées, détournées, pastichées, kidnappées au cours du XXe siècle, qui continuent à nous toucher en ce début de troisième millénaire, et dont les arrangements musicaux ont pu revêtir tous les aspects que nous avons constatés, revêtir tour à tour les accents d'une chanson triste, ceux d'une berceuse, ceux d'un slow langoureux ou jazzy, ceux d'une marche militaire. C'est très étonnant. Pour l'écrivain Herbert Fritzsche, il avait dit que Lili Marlène n'était pas seulement une chanson populaire. Il avait dit qu'elle était la chanson des peuples en souffrance. Les peuples en souffrance. Après la guerre, Norbert Schulze, Hans Leib, Leil Andersen n'ont jamais cessé de recevoir des milliers de lettres, de mères, de veuves éplorées, de sœurs, d'orphelines, de fiancées solitaires. Cette chanson était devenue le recours.
Donc elle porte les souffrances du monde.
Porte les souffrances du monde et elle porte, plus encore, la mémoire des souffrances du monde. Ces femmes leur écrivaient à ces trois protagonistes pour leur dire que grâce à leur chanson, leur fils, leur père, leur mari, leurs amoureux avaient pu exprimer par procuration la beauté, la réalité, la vibration de leur âme avant de mourir. La petite musique de l'âme, c'est ce que j'ai toujours cherché dans les paroles de. Et que, au-delà de leur trépas, et c'est ça qui est important, Lili Marlène perpétuait leurs souvenirs. D'une certaine façon, grâce à cette chanson, ces disparus restaient vivants. Il restait quelque chose. Alors, voilà, Roméo et Juliette, Hans et Lili sont à jamais unis sous la lanterne. Et je ne peux pas penser à cette chanson sans penser à cette sorte d'épitaphe qu'Alfred de Musset avait laissé derrière lui, à la fin de sa courte vie. Ses amours avec Georges Sand n'ont jamais pris fin malgré leur rupture apparente à Venise. Ces deux-là sont toujours restés très en symbiose. Et À la fin de sa vie, Musset a dit une très très belle chose en pensant à leurs amours et qu'on peut généraliser à tous ceux qui un jour se sont aimés. Il a cette conclusion dans un vers, dans une dédicace magnifique, que la terre leur soit légère. Ils ont aimé. Que la terre leur soit légère. Ils ont aimé. Eh bien, à chaque fois qu'on écoute Lily Marlène, j'ai cette phrase qui me vient en tête. Que la terre leur soit légère. Ils ont aimé.
Merci Jean-Pierre Guénaud de nous avoir fait partager tous ces moments avec Lily Marlène, la mémoire du XXe siècle, avec tous ces aspects que vous avez pu décrire qui étaient tout à fait ignorés grâce à ces documents exclusifs que l'on pourra redécouvrir dans la véritable histoire de la plus belle chanson d'amour de tous les temps, apparaître aux éditions Télémac. On va se quitter avec une version de 1954 de Lely Andersen, dont on a beaucoup parlé évidemment, Lely Andersen. Une version qui, non pas que ce soit une récapitulation, mais qui marque aussi peut-être une étape supplémentaire dans cette chanson arrivée à maturité.
Oui, et bien version très émouvante, parce qu'entre-temps sont passés par là successivement Anne Shelton, et puis bien d'autres, Vera Lynn, et puis Marlène Dietrich. Et c'est très émouvant. On a ouvert cette émission sur la toute première version de Lily Marlène, celle interprétée en 1939 dans ce disque qui a été un échec retentissant par Lely Andersen.
Avec ce 18 août 1941.
Voilà, et on finit avec cette version de 54, tout à fait différente, très apaisée, plus du tout claironnante. Ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est un petit mot sur Lely Andersen. Quelle a été la fin de la belle Lely? Elle a fini par s'installer sur Landshut, dans une baraque militaire, sur ces îles marines qui étaient proches de son pays natal.
Bremerhaven.
En 1949, elle a épousé le compositeur Arthur Boehl. Et en fait, elle n'a rencontré pour la première fois de sa vie Marlène Dietrich qu'en 1959, donc très très tardivement. Elle est restée l'une des chanteuses les plus populaires en Allemagne de l'Ouest. Il faut avoir en tête qu'elle était, et elle a représenté l'Allemagne en 61 dans un concours d'Eurovision. Elle a effectué une grande tournée aux États-Unis en 65. Et la chanson, chantée par elle ou pas chantée par elle, a été dans les hit-parades au Japon, aux États-Unis, dans les années 80, en tête des hit-parades. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, celle que l'on appelait Liselotte Wilk, c'était son premier nom de chanteuse, qui était devenue Lely Andersen. Eh bien, elle est morte à Vienne, le 29 août 1972. Elle avait 67 ans et son souhait était d'être incinérée. Et là où les choses sont magnifiques, c'est que le bateau qui a transporté son urne, qui contenait ses cendres, jusqu'à l'île de Landshut, où elle était placée dans un petit cimetière, eh bien, ce bateau avait pour nom Lily Marlène.
Incroyable. Mais c'était fortuit?
C'était fortuit. Il se trouve que la réputation de la chanson était telle que ce bateau-là avait été baptisé Lily Marlène, mais c'est une coïncidence qui a fait que l'urne a été transportée sur ce bateau. Voilà, donc Lely Andersen n'est plus, mais vous l'avez bien compris, Lily Marlène est immortelle.
Et elle demeure dans sa version de 1954 avec laquelle nous nous quittons. Merci Jean-Pierre Guénaud.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unserer beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der
Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen,
mit dir,
Lili Marleen.